brûlé du sport que j'ai fait en fin de semaine.
T'as pas arrêté?
J'ai pas arrêté. J'ai joué, j'ai joué à Coupe Vanier, j'ai joué à Coupe Davis, j'ai joué dans la NFL, j'ai joué dans la Ligue nationale de hockey vendredi après-midi. J'ai pas arrêté.
Pas arrêté pendant
un autre rêve.
Pas arrêté.
T'es pas trop mêlé dans tes souliers, parce que tu joues avec des crampons sur la glace, ça peut pas me patiner sur le tennis, c'est pas idéal.
Tu dormis avec tes patins?
Je me suis arrangé.
Un bon revers.
C'était du stock pareil.
Oui, il y avait beaucoup d'action.
Brûlé raide.
Beaucoup de choses. C'est pour ça qu'hier au soccer, ça marchait plus pantoute.
Ouais, le soccer.
À un moment donné, tu peux pas tout faire.
Moins d'intérêt, là. Puis mon coach, il avait bavé le gars de l'équipe. Qui était pourri.
Lui, il a perdu une belle occasion. Ah, 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 ah. Ils vont l'embaucher, d'après moi, en Croatie la prochaine fois. C'est épouvantable. Et on va commencer avec le football, avec la victoire du Rouge et Or samedi après-midi à London, en Ontario. Un gain de 30-24 du Rouge et Or face aux Huskies de la Saskatchewan. Ça a été un match serré pas mal tout le long. 3-3 après un quart. 17-17 à la demi. Puis en deuxième demi, ben... La défensive du Rouge et Or, ils ont fait des ajustements, c'est certain. En deuxième demi, ils ont à peu près rien donné aux Huskies de la Saskatchewan, qui ont réussi à réduire l'écart à 27-24 à un moment donné. Puis le Rouge et Or est allé réussir un placement, le cinquième du match de Vincent Blanchard. Et à la fin, bien, la défensive a fermé les livres pour une onzième conquête de la Coupe Vanier pour le Rouge et Or football. C'est un record dans le football universitaire canadien. C'était la 57e présentation de la Coupe Vanier en fin de semaine. Kevin Mittal a été choisi le meilleur joueur en offensive, 8 attrapés. 142 verges et il a réussi une passe de toucher sur un jeu truqué, là, un jeu qu'on voit pas souvent. Le receveur de passe Mittal, qui était le quart arrière, s'est approché deux pas vers la ligne de mêlée puis a fait une petite passe à David Dallaire qui était seul dans la zone début. Puis en défensive, Charles-Alexandre Jacques a été choisi le meilleur joueur défensif. Voilà pour le Rouge et Or qui redevient la sommité au football universitaire canadien. C'était pas arrivé depuis 2018 pour le Rouge et Or, une victoire dans le match de la Coupe Vanier.
Il y a combien d'années qu'il n'y en a pas eu de Coupe Vanier? Une ou deux?
Je dirais une. Il y en a eu une l'année passée, c'était à Québec. Ouais. Western a battu Saskatchewan.
Ça veut dire que c'était la Coupe Vanier 2021, ça, l'année passée?
2020 n'a pas eu.
Hein?
2020 n'a pas eu.
2020 n'a pas eu.
Il n'y a pas eu de football.
Une année. Hein?
Il n'y a pas eu de football.
Il n'y a pas eu de football.
Ça, c'est l'année de la pandémie, évidemment. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu. À part ça, dans le football de la NFL, une première équipe à 10 victoires, ce sont les Eagles de Philadelphie. Hier soir, les Eagles ont gagné 40-33 face aux Packers de Green Bay, qui connaissent une saison extrêmement décevante. Mais ça a été un bon match. Ça a été un match divertissant hier. Et encore une fois, pour les Eagles, le quart arrière Jalen Hurts a été la grande vedette. Ce gars-là est phénoménal. Il faut absolument qu'il soit dans la course pour le titre de joueur le plus utile. Non seulement il court avec le ballon, mais ça, on le savait que c'était un bon coureur. Ce qu'on ne savait pas assez, c'est qu'il était capable de lancer le ballon comme il le fait présentement. Ce qui fait que les défensives adverses contre les Eagles savent plus quoi faire. L'offensive des Eagles a tellement de munitions, tellement d'options dans son jeu. Et Jalen Hurts est la raison pourquoi cette offensive-là fonctionne comme elle le fait. 353 verges au sol hier pour les Eagles. Ça, c'est du stock. C'est trois terrains et demi dans le match qu'ils ont couru. 157 à lui seul pour Jalen Hurts. Alors, les Eagles ont le meilleur dossier de la NFL ce matin. Puis hier, on parlait de Jalen Hurts. Et au bench press, Stéphane, ça, tu peux te faire mal. Là. Bench press,
t'es couché sur le dos, là.
T'es couché puis tu fais des répétitions en levant le poids le plus possible. Lui, il soulève 600 livres, Jalen Hurts. C'est un corps arrière. Un corps arrière, d'habitude, c'est plus... c'est mobile, c'est plus souple. C'est rarement très fort comme ça. 600 livres, c'est les joueurs de ligne qui font ça aussi.
Tom Brady lève pas 300,
non, 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 non. Tom Brady fait pas ça. Il va se faire mal. Mais c'est 600 livres au bench press. Quand j'ai entendu ça hier, ce gars-là, il est fort en haut du corps, là. Puis quand il court. Hein?
Puis moi, ce que
j'ai... grandes enjambées.
Ah, il est vraiment un athlète incroyable. Puis c'est drôle parce que les gars expliquaient hier qu'on lui reprochait de pas être assez précis dans son jeu de passe au niveau NCAA.
Exact.
Puis il s'est comme amélioré. Ce qui est très rare d'améliorer cette facette-là, parce que tu l'as ou tu l'as pas, la précision.
Ouais.
Mais il l'a amélioré avec le temps.
Parce que s'il était pas capable de lancer le ballon, mais là, ça deviendrait trop prévisible, puis il y aurait moins de succès parce que les équipes, ils se mettraient à 8 dans la boîte, puis lui dirait « Lance-le le ballon, on sait que t'es pas capable. Nous autres, on va t'arrêter au sol. »
C'est un peu ce qui arrive avec Lamar Jackson.
Oui,
on le sait.
Il lance moins bien le ballon.
Lui, il lance croche en battant.
Oui.
Il est tout le temps 10 pieds au-dessous, 10 pieds avant. Oui. Il manque tout le temps 10 pieds quelque part.
Il manque un bout, c'est sûr. Dans les faits saillants de la journée d'hier dans la NFL, on va sûrement y revenir, là, mais il y a deux matchs où les équipes ont tenté une transformation de deux points à la fin de la partie pour gagner le match. J'ai trouvé ça intéressant. Entre autres, les Chargers de Los Angeles qui tiraient de l'arrière 24-17. ont fait un toucher dans les dernières secondes du match pour porter le pointage 24-23 Arizona. Et l'entraîneur-chef des Chargers a décidé d'y aller pour une transformation de 2 points. Ils l'ont réussi. Et de cette façon-là, ils ont gagné 25-24. Évidemment que s'ils manquent leur coup, au lieu d'essayer le petit point facile, ben, s'ils manquent son coup, ils perdent le match. Puis pour les Chargers, ben, ils sont encore dans la course pour une place en séries éliminatoires. Hier, avec leur victoire, ils ont porté leur dossier à 6-5. Et l'autre équipe qui l'a fait, c'est les Jaguars de Jacksonville. Eux sont moins dans la course. Ça enlève pas le mérite de tenter un converti de 2 points à la fin du match, mais ils sont pas dans le portrait des séries. Et j'ai trouvé la décision audacieuse aussi. Puis ça, encore une fois, ils ont réussi le converti de 2 points les Jaguars, puis ils ont gagné de cette façon-là. Contre Baltimore, qui subissent ainsi un revers qui peut leur faire mal. Les Ravens sont maintenant 7-4. Et peut-être qu'hier, on en parlait vendredi, tu me posais des questions sur les jeunes quarts. Je pense qu'hier, Trevor Lawrence, qui a été le premier choix du repêchage, pas cette année, l'autre avant, vient de jouer son meilleur match dans la NFL. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, il peut se bâtir une confiance avec le match qu'il a joué hier. Les Jaguars sont revenus contre une bonne équipe quand même, les Ravens de Baltimore. Fait que c'est ça en gros. Ensuite, ben, les Jets ont gagné avec Mike White au poste de quart parce qu'ils ont benché Zach Wilson, lui qui a pas respecté ses coéquipiers. C'est pour ça qu'il s'est fait... Il était même pas habillé hier. On a décidé de même pas l'habiller, Zach Wilson. Pas du tout. Il était pas deuxième quart. Il était pas troisième quart. Il était responsable des roteux hier sur la galerie de presse.
Crime, c'est quasiment... Ça peut signer la fin?
C'est, hier, il y a beaucoup d'analystes qui trouvaient que c'était une décision audacieuse des Jets parce que quand il a été repêché deuxième au total, lui, au repêchage de la NFL, il y a de ça 2 ans, ça fait pas longtemps. C'est un corps qui a eu beaucoup de succès dans le football universitaire à l'université Brigham Young, mais jusqu'à date dans la NFL, il faut avouer qu'il se passe pas grand-chose. Il joue pas, il est pas très impressionnant, à part le fait que... C'était quoi l'histoire? Donc?
C'est que lui
aime les femmes
plus
âgées.
Bon. Ouais, mais, hein?
Il aime les femmes plus âgées, c'est lui, ça.
OK.
Il aimait bien les amis de sa mère.
OK.
C'est... Jusqu'à date, il est reconnu pour ça, Stéphane,
des
dans
milfs.
Sa carrière.
OK, OK, je savais pas ça.
Alors, mais sur le terrain, un petit peu moins.
C'est plus difficile. Puis le gars qui l'a en place hier, c'était son premier match.
Cette année, mais il a joué l'an passé.
Ah, il a joué un petit peu, OK.
Mais c'est un no-name, là. Okay. Mike White.
Non, non, je l'avais jamais entendu.
Non.
C'est pas une nouvelle étoile aînée?
On va attendre avant. Ça va que ça brille, là. On va attendre un petit peu. Fait que c'est ça pour les matchs de la NFL. Ce soir, Pittsburgh contre les Colts à Indianapolis. C'est deux équipes qui ont des fiches négatives. Les Steelers à 3-7 et les Colts à 4 victoires, 6 défaites et un match de nul. À part de ça, l'équipe de soccer du Canada est éliminée de la Coupe du Monde au Qatar. Hier, ils disputaient leur 2e de 3 matchs de la ronde préliminaire. Il y avait de l'excitation, il y avait de l'engouement pour ce match-là. Ça a très bien débuté. À la 2e minute, Alphonso Davies a marqué le premier but de l'histoire du Canada en match de Coupe du Monde. Donc, l'excitation a monté d'un cran très tôt dans le match contre la Croatie. Mais rapidement, les Croates ont créé l'égalité 1-1 et ensuite ont pris complètement le contrôle de la partie. Le Canada s'est fait planter hier, 4-1 par les Croates. Et ce qui retenait l'attention après la victoire de la Croatie, ben c'était les commentaires de l'entraîneur-chef, le sélectionneur du Canada, John Erdman. Vous en rappelez, après la défaite contre le Belgique plus tôt cette semaine, le Canada avait très bien joué, mais avait perdu 1-0 contre les Belges. Alors l'entraîneur-chef, après le match, excité probablement, bien content de la performance de ses joueurs, avait dit, si on joue comme on vient de jouer, on va planter les Croates, ce sera même pas drôle. Alors...
C'était
très drôle, oui. Pendant quelques jours, l'équipe de la Croatie s'est motivée avec ces commentaires-là. La presse s'est emparée de ça. Il y a eu de nombreux articles dans les médias pour...
Avec des photos du coach tout nu,
ouais,
là.
Avec la feuille d'érable du Canada à la tête, un peu plus grosse, puis la feuille d'érable
tout
petite qui cachait son sexe, comme pour dire, t'es un beau parleur, mais as-tu les balles qui vont avec?
Ah, c'est ça.
Alors... ça a été une erreur. Visiblement, ça a été une erreur de l'entraîneur-chef du Canada, de ses commentaires qui ont motivé grandement l'équipe de la Croatie. Il reste un match au Canada, mais ils n'ont plus de chance de participer au tour éliminatoire. C'est jeudi que le Canada va affronter le Maroc. Ça se poursuit, bien sûr, aujourd'hui pour 4 autres matchs à la Coupe du monde de soccer au Qatar. Les Américains, eux, jouent leur prochaine partie. Dernier match de la ronde préliminaire demain contre l'Iran et ils doivent gagner leur match pour accéder au prochain tour. Je veux juste vous dire qu'il y a des bourses pour les équipes à la Coupe du du monde de soccer. C'est 440 millions de dollars de bourse au total qu'on remet aux équipes.
440 millions sur 32 clubs?
32 équipes, exactement. Mmh. Les équipes qui perdent au premier tour, en fait, qui ne se qualifient pas pour la ronde éliminatoire, ce sera le cas du Canada. Il y en a 16 qui se qualifient, 16 qui ne se qualifient pas, reçoivent chacun 9 millions de dollars américains. Et déjà, pour chacune des équipes, pour on appelle ça des coûts de préparation pour la Coupe du monde, on avait remis 1,5 million de dollars. Donc, l'équipe canadienne va repartir du Qatar avec 10,5 millions de dollars dans les coffres. C'est quand même pas banal parce que le budget annuel pour Soccer Canada, pour tout ce qui se passe, les événements, puis les matchs internationaux, puis tout le kit, c'est 30 millions de dollars. Alors, juste la participation à la Coupe du monde, on comprend avec ces chiffres-là que c'est très important pour le développement. Après ça, c'est le tiers du budget annuel. On va l'ajouter, bien sûr, sur le tas des commandites qu'on a déjà, là, mais c'est très bon. Pour Soccer Canada, ça va permettre de progresser probablement pour la prochaine Coupe du monde, qui, je vous rappelle, a lieu en Amérique.
Oui, c'est ça, ça a lieu en Amérique. Puis là, ça donne le goût. Moi, j'ai regardé hier matin.
Il y a beaucoup d'intérêt.
Oui, ça donne de l'intérêt, même si c'est pas un sport que je trouve très excitant.
Ça aurait été le fun qui gagne. Ça aurait été le fun qui continue.
Qui continue et qui fasse un bout. Mais ça démontre à quel point également c'est fort. Parce que le Canada a fini au premier rang de sa vague de classement, de qualification. Puis il arrive là, puis on gagnera peut-être pas une game. Là, parce que le Maroc a surpris les Belges.
Oui.
Donc c'est quand même très, très fort là, à ce niveau-là.
Exactement. Avant de tomber dans l'hockey, vous dire qu'à la Coupe Davis de tennis, le Canada est champion. Là, ça va bien, Tennis Canada. Mais ça c'est la progression, puis c'est juste la conclusion de plusieurs très bonnes années pour Tennis Canada. Je dis pas que c'était écrit dans le ciel qu'il allait gagner, mais ça nous surprend, oui et non, parce qu'on sait qu'il y a de bons jeunes, de bons joueurs canadiens présentement au monde. On le voit dans les tournois. Là, Félix et Denis Shapovalov particulièrement sont régulièrement parmi les têtes de série.
Félix qui?
Félix Auger-Aliassime.
Ah, OK. Non, c'est une joke.
Oui. Ils ont battu l'Australie hier en finale. Ils ont changé le format de la Coupe Davis un petit peu. Là, ça se passait tout dans la même fin de semaine. C'était en Espagne, en fin de semaine, de mémoire. Et puis, en quart de finale, le Canada avait battu l'Allemagne jeudi. En demi-finale, ils ont battu l'Italie samedi.
Ça,
et en finale, l'Australie. Oui.
Félix, il était bon. Ça,
il a pas perdu un match, Félix.
Il a été très, très bon.
C'est deux matchs de simple. Et si on divise, ben, on a besoin du match de double pour faire un gagnant.
Ouais. Ouais, ben dans la demi-finale, ils ont joué le match de double en deuxième. Fait que où il a gagné ça, puis ils ont fini en double. Ouais, peut-être, je me souviens pas, mais en tout cas, Félix c'est ça. Il est venu, il était clutch dans ça. C'est une première dans l'histoire, quand même, oui, pour le Canada,
mais
remporter la Coupe des
Nations. Il était là un peu par défaut. Parce que pourquoi le Canada a participé à cette finale-là? C'est à cause de l'exclusion de la Russie. On a exclu la Russie à cause du conflit avec l'Ukraine.
Okay.
La Russie était qualifiée. Et le Canada n'était pas qualifié. Parce que le Canada avait perdu au mois de mars contre le Pays-Bas, la première ronde de qualification.
Okay, je savais pas.
Mais comme le Canada était le meilleur pays restant, une fois qu'on a exclu la Russie, ben on a dit, on vous ramène dans l'autre phase de qualification qui a eu lieu au mois de septembre. Parce qu'au mois de mars, quand ils ont perdu contre les Pays-Bas, c'est ça la Coupe Davis, c'est qu'au mois de mars, Shapovalov et Félix n'ont pas joué. Le Canada a perdu. 4-0, il s'était fait planter 4-0 par les Pays-Bas. Donc là, il était exclu cette année de la Coupe Davis. Mais comme on a retiré la Russie à cause du conflit, ça laissait une place. C'est là que le Canada est revenu dans le portrait. Il y a eu une séance de qualification au mois de septembre. C'était en Italie, me semble, à Valence. Et là, Félix a joué. Félix a gagné encore. Félix, il a une année incroyable, là, Félix Auger-Aliassime.
Ça fait penser aux Canadiens. Quand le Canadien atteint la finale de la Coupe Stanley, il était rentré d'une place de quêteux. Là.
Oui, place de quêteux. C'est un peu ça qui est arrivé. Mais pour le reste, ils n'ont rien quêté.
Ils ont gagné.
Ils ont vraiment gagné. Parlant du Canadien, ils ne jouaient pas en fin de semaine. En fait, le dernier match du scolaire a eu lieu vendredi après-midi à Chicago. Une victoire de 3-2 en tir de barrage. Avec Kirby Dack qui a marqué le but gagnant d'ailleurs en tir de barrage et qui s'est amusé avec la foule à Chicago puisqu'il s'est fait huer parce que Dack avait été le troisième choix de tout le repêchage par les Blackhawks. Ça n'a pas fonctionné. Il a fini par être échangé aux Canadiens. Où il va bien d'ailleurs aux côtés de Cole Caulfield et Nick Suzuki. Le Canadien est dixième dans l'Est ce matin avec 23 points de classement en 21 matchs, 11 victoires et 10 défaites. Une de ces défaites est survenue en prolongation.
Donc, Samuel, on est des séries?
Non, pas encore. On est à un ou deux points du détail. Samuel Montembeault joue bien. Il joue même très bien. Oui. Puis il gagne ses matchs. La semaine du Canadien, demain contre San Jose au Centre Bell. Et ensuite, un voyage de 4 matchs dans l'Ouest qui va débuter jeudi à Calgary, samedi à Edmonton, lundi prochain à Vancouver et mardi prochain contre le Kraken à Seattle. Le Kraken qui va très bien, Stéphane. Le Kraken serait dans les séries éliminatoires. Ça débutait aujourd'hui. 13 victoires en 21 matchs pour le Kraken cette saison. 5-4 la victoire hier contre Anaheim. J'aime bien Matty Beniers. C'est un des jeunes joueurs du Kraken. Il a marqué son 7e but hier en plus de récolter 2 passes. Dans les autres matchs, hier, 3 équipes canadiennes ont gagné. Ottawa l'emporte 3-2 sur les Kings à Los Angeles en prolongation. Claude Giroux a marqué le but gagnant. Vancouver a battu San Jose en prolongation également, 4-3. Kuzmenko a marqué son 11e de l'année en surtemps. Et Winnipeg a gagné facilement contre les Blackhawks à Chicago, 7-2. 2 buts pour Pierre-Luc Dubois. Il y a aussi Minnesota qui a gagné contre Arizona hier. En fin de semaine, les Leafs ont encore gagné 2 matchs et Mitch Marner, l'attaquant des Leafs, s'est rendu à 16 matchs de suite avec au moins 1 point. Les Leafs se sont replacés un petit peu après un début de saison difficile. Puis j'ai 2-3 choses en terminant. D'abord, pour ce qui est du hockey junior, les Remparts sont toujours premiers au classement général. Des gains de 4-3 contre Baie-Comeau et 5-2 contre Gatineau en fin de semaine. Les Remparts ont établi un nouveau record pour le nombre de victoires consécutives à domicile. C'est maintenant 14 victoires de suite. Ils n'ont pas perdu au Centre Vidéotron cette saison. C'est un nouveau record d'équipe. Et le début de saison des Remparts, 21 victoires en 25 matchs, égale le 2e meilleur début de saison de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec. Il y a une seule autre équipe qui a eu un meilleur début de saison que ce que les Remparts font présentement. Et ce sont les Remparts de Guy Lafleur de 1970-71. Après 25 matchs, ils avaient gagné 23 parties. Avec 21 victoires en 25 matchs, les Remparts sont les 2e meilleurs de l'histoire de la LHJMQ. La saison de ski a commencé en fin de semaine. Je le mentionne parce que les centres de ski veulent de l'achalandage. Puis c'est bien correct comme ça. Le Mont-Saint-Anne est ouvert. Le relais, je pense que ça va commencer cette semaine ou en fin de semaine. Les plus grosses montagnes sont ouvertes depuis la fin de semaine. C'est sûr qu'avec la température, ouais, c'est pas l'idéal, là, ce qu'on annonce là.
Exact.
Et puis, il y a de ça un an, Stéphane, le 28 novembre 2021, que se passait-il dans l'entourage du Canadien, le 28 novembre 2021?
Carey Price a annoncé sa retraite?
Ben non, on faisait le grand ménage. Ça fait juste un an, ça, que c'est arrivé.
OK.
Bergevin, Timmins et Paul Wilson. On sait pas comment, les gars, mais on va pas mal se passer de vous.
Et on annonçait la même journée à Hughes puis toute cette gang-là?
C'est arrivé un petit peu plus tard. Jours plus tard, peut-être.
Okay.
Ça fait
prêt.
Juste un an.
Oui.
On a l'impression quand même que le Canadien a progressé rapidement.
Qui a pris le bon chemin, là, tu sais.
Ça a été une bonne décision de faire maison nette.
C'est ça.
Ça allait pas bien.
Ça allait pas bien.
Ça allait vraiment pas bien.
L'alignement était pas bon.
C'était pas bien aligné, Stéphane.
C'est ça. Alors que là, ça semble être dans la bonne direction.
Oui.
Ça va prendre encore un peu de temps, là. Oui. Il y a du bois mort, là. Dadonov, Drouin, on sait plus trop où les mettre.
Les jeunes, ils sont pas encore à maturité.
Exactement.
Donc,
il va avoir
quatre
de la
ans.
Place.
3-4 ans, Stéphane.
On va être dans série, on va être dangereux dans quelques années. Très dangereux.
L'an prochain.
Hey, bonne nouvelle, j'ai vu aussi que le Lightning de Tampa Bay avait rappelé
Alex
Barry-Boulay.
Pour combien de jours?
Je sais pas.
Les deux, il est meilleur marqueur de la Ligue américaine.
Ah ouais, je savais pas.
Il fait ce qu'il faut. Ça doit être frustrant un peu. Ça doit être fâchant pour lui.
À Tampa, il n'y a pas tant de place.
Non.
Mais tu sais, il était parti de Tampa parce que Seattle l'avait réclamé, puis ils l'ont pas gardé.
Pis il n'a pas été placé au ballottage même.
Il a été mis au ballottage, puis c'est là que Tampa l'a ramassé.
C'est ça.
Fait qu'ils veulent dans leur organisation.
Mais c'est sûr que ça fait de la profondeur, de la belle profondeur, mais s'il n'y a pas de blessé.
C'est ça, il y a moins de place pour jouer pour lui à ce moment-là avec donc le Lightning. On va s'arrêter là-dessus. C'était l'essentiel dans le monde du sport. On vous revient, bougez pas.